Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nous sommes... Pardon.
Vas-y, je t'en prie.
Non, mais tu disais un truc... t'allais dire un truc intéressant.
Et non, j'avais vu sur un truc qu'il fallait pas dire aux gens « Je suis désolé d'être en retard », il fallait dire « Merci d'avoir attendu ». Merci d'avoir attendu.
T'as vu ça sur quoi?
Oh, Facebook. Ça devait être BuzzFeed ou un truc...
Okay, bien sûr, The Place to Be pour apprendre comment faire pour...
Bah, il y a toujours des petites BD comme ça rigolotes et sympas pour apprendre un petit peu à gérer la vie.
Comment tu vas t'asseoir? Parce que t'es en train de tout niquer mon cadre comme t'es là.
Ah, pardon. Attends.
Marine Bausson, bonjour.
Bonjour.
Putain, t'es vraiment en train de baiser mon cadre. Direct. Ah, en fait, t'as rebougé.
Attends, vas-y, refais ton cadre.
Non, c'est pas comme ça alors.
Alors, pendant que tu refais ton cadre, je vais vous raconter que Fab, il a un tout petit micro. Alors, du coup, il fait comme ça. C'est un micro que tu mets là, mais lui, il le prend comme ça. Ça fait vraiment. J'ai volé ça à un Barbie qui faisait du stand-up. Bonsoir à tous.
Je juge pas comme ça, après, je fais comme ça.
Comme ça.
On l'entend mieux.
Il dit, je fais comme ça quand tu parles. C'est vraiment très bien. Bonsoir à tous.
Arrête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu décides de me décrédibiliser alors que tout ça, j'ai un petit micro. Tu veux dire que
c'est pas la taille qui compte.
C'est ça.
Exactement.
J'avais bien vu.
T'allais me lancer, le lancer.
J'avais bien vu l'allusion. Hein.
Non, il n'y en avait pas, mais tu l'as vu. Et c'est là où ça devient gênant.
Marine, je vais détruire ta carrière. Bon, c'est un running gag entre nous.
Ouais, et ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Parce que on n'est pas sur je suis pas encore Amy Schumer quoi. On est à ça hein. Mais
Amy Schumer en France c'est pas.
Ouais mais c'est déjà mieux que Marine Bausson.
C'est vrai. Non mais t'es quoi.
Même si voilà.
On est avec Marine Bausson aujourd'hui. Bonjour Marine.
Bonjour.
Comment ça va?
Eh ben c'est le matin. Donc ça veut dire que ça va mais j'ai des.
T'as été obligée de te lever. Je t'ai fait lever.
Mais tu sais que je me lève tous les jours. Je sais pas pourquoi j'ai tous les jours des rendez-vous à 10h. Et en général, j'arrive à 10h20, comme là. Mais je suis pas arrivée à 10h20, je suis arrivée à 10h17.
Est-ce que les gens. C'est peut-être pour ça en fait que tu dis que t'as des soucis de carrière.
C'est oui,
parce qu'en fait,
c'est
les gens détruisent systématiquement ta carrière quand t'arrives avec 17 minutes de retard.
Mais ils ont raison.
C'est pas très
je suis
bien,
complètement contre l'idée d'être en retard. Et
ne
je fais tout
rien.
Pour lutter contre moi-même. Mais voilà. La vie a fait que. Mais hé, j'aurais pu être à l'heure et ne pas m'être lavé les dents.
C'est vrai. Ou venir en pige.
En revanche, j'ai ramené un Kinder.
C'est vrai. Et okay. Ça.
Et les gens là sont passionnés. Allez.
Marine, on est là pour parler de ta vie, de ton œuvre.
Oui.
Et tout ça. Parce qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant.
Et oui, on s'est rencontrés en 87, il me semble, juillet. Voilà, pardon.
T'étais pas née?
Si, en 87, j'étais née. En juillet 87, j'avais un an et quelques mois.
Tu vois comme quoi j'ai bien préparé.
J'ai bien préparé. Je lui dis, tu veux changer les trucs? Non, ça va.
Mais j'ai pas besoin, moi.
Tu connais tout de ma vie?
Mais non, le feeling.
Okay.
I got a feeling. Mmh. Bon, Marine, que font tes parents dans la vie?
C'est vrai,
d'où tu viens? Ouais, c'est une vraie question.
C'est une vraie question. Ouais. Mon papa, il est directeur du patrimoine chez Côte d'Armor Habitat. C'est-à-dire, en gros, c'est HLM, mais pour les Côtes d'Armor, c'est un truc départemental. Et il est chef du patrimoine, directeur du. Waouh!
Ça veut dire quoi, le directeur?
Aucune idée. D'accord. Mais il a monté au grade il y a pas longtemps, il était assez content. Et ça veut dire qu'il rentre tard. Et voilà. Et puis, ma maman, elle est agent du Trésor public.
Mmh.
Elle travaille aux impôts. Wouh! Et comment détruire ma carrière? C'était maintenant! Travaille aux impôts, voilà.
Ah, d'accord. Moi, je connaissais surtout ta maman pour Choupa Choups, n'est-ce pas?
Mais tout à fait.
C'est vrai que je.
Là, tu connais.
Oui. Je connaissais pas, je savais pas que Choupa Choups.
Il faut bien qu'elle ait des côtés femmes.
Travailler aux.
Elle travaille aux impôts, moi, trésor public, ouais.
On va expliquer pourquoi Choupa Choups là tout de suite. Non, pas du tout.
Ah, je me suis dit, il allait vraiment faire un insert. Genre, et maintenant, dans ce cadre, il y a un insert de moi qui fait des blagues.
Bah oui, mais ça, les gens pourront cliquer dessus.
Ouais. Et c'est un truc de fou d'ailleurs, ce truc, parce que je me dis. Putain, ma mère, franchement, elle m'aime. Pour pouvoir... Enfin, vraiment, je parle quand même de cul, tu vois. Et genre, à Noël, c'était horrible. Toute ma famille se foutait de sa gueule. Tous ses copains se foutent de sa gueule. Et Et elle dit, ouais, mais bon, faut bien ça. Genre pour sa carrière.
Non, mais c'est dis, ouais. Parce que ça l'a fait marrer aussi, je pense.
Non, mais je pense que ça l'a fait rire, mais vraiment, je vois que les gens sont chiants. Les gens, ils sont chiants avec moi à ce sujet. Donc je me dis, avec elle, c'est encore pire. C'est-à-dire que vraiment, elle a été bossée. Son patron est venu me voir jouer, j'ai joué en Bretagne, son patron est venu me voir jouer. Elle a été bossée, son patron vient, petit jus d'orange. Et donc c'est vraiment. Bon voilà. Bah, si vous connaissez pas de quoi je parle, regardez mon sketch ou venez voir mon spectacle. Ouais. Et oui, je fais déjà ma communication.
Elle est forte.
Elle est forte, putain.
Parlons de toi quand t'étais petite.
Ouais, j'étais sympa.
C'était quoi Marine Baousson petite? Ça ressemble à quoi?
Ça ressemblait à.
C'était quoi ton enfance?
Oh, c'est une enfance heureuse, c'est pas une enfance. Enfin, c'est une enfance. Tu sais, moi j'ai des parents qui s'aiment, j'habitais dans la banlieue de Saint-Brieuc, c'est-à-dire dans une ville qui s'appelle Ploufragan. Donc, enfin, banlieue. C'est vrai, c'est même pas une banlieue, c'est j'habite dans la ville à côté de Saint-Brieuc, en fait. Et non, j'ai une enfance heureuse, j'ai des frères et sœurs avec qui on s'entend bien, on rigole bien. Non, c'était cool.
T'es pas l'artiste torturé, quoi.
Pas du tout, mais alors vraiment pas.
C'est ça aussi qui est chiant, tu sais, les gens veulent un peu de torture, un peu de seum.
Mais oui, mais moi, ma torture à moi, c'est que je suis en retard. C'est que j'arrive pas à lutter contre ça. Mais sinon, non. Franchement, non, une enfance, on rigolait beaucoup, tous, et tous les cinq, et du coup, c'était chouette.
Ouais. Est-ce que la Marine Baousson petite, c'est un peu déjà la rigolote de service ou
Alors, ouais, à l'école et tout ça, ouais. Mais pas tellement dans ma famille, parce que dans ma famille, on est tous pareils, au même niveau d'égalité, sauf ma mère qui rigole. Mais en fait, sinon, et mon frère, ils sont tous, mon frère et ma soeur sont très marrants, mon père est très marrant. Donc du coup il y a un côté bon, on fait tous un peu ça, mais il y a pas de, enfin on rigole un peu tous quoi. J'ai l'impression que tout le monde aurait pu être humoriste dans ma famille, c'est moi qui ai choisi ça.
Ça devient de ton père alors le côté
ouais je crois.
Très tôt il t'a éduqué.
Et en fait on en discutait avec mon frère il y a pas longtemps et on s'est dit que ça venait de mon père. Mon père il écrit tous les discours et ça, mon père il écrit, il fait des blagues et tout. Et ma mère elle rit beaucoup. Et on se disait avec mon frère que vraiment on était partagé entre cette idée de faire rire ma mère qui est très bon public. Vraiment toujours avoir envie de faire rire ma mère et en même temps de vouloir c'est fait vraiment pas famille torturée, on aimait beaucoup faire rire notre mère. Voilà, mais non
ça
voilà,
ça fait famille ricorée,
ça fait un peu, mais matins. C'est cool. D'ailleurs ma mère boit de la ricorée et ma grand-mère, mais voilà, non donc c'est vraiment la famille ricorée, mais ouais c'est cool.
À l'école t'étais plutôt genre bon élève, c'est ça, sage et tout ou...
Ah ouais, moi j'étais bon élève. Ouais. Mais moi j'ai toutes les interdictions, tu sais, qu'on te met dans une vie. Moi je les suis toutes. Enfin, ma mère, enfin, tu sais, quand t'es petit, on te dit faut pas fumer, il faut pas dire de gros mots, il faut pas boire de l'alcool, c'est pas bien. Et ben moi, du coup, je fume pas, je bois pas. Non, j'étais vraiment. Moi j'étais une gentille petite fille, j'avais des bonnes notes à l'école, je travaillais pas beaucoup. Pour le coup, j'avais pas besoin de beaucoup travailler, mais ouais, j'avais des bonnes notes, j'étais sympa, les profs m'aimaient bien. J'étais la petite fille gentille, tu vois, la petite fille modèle qui faisait des blagues, voilà.
Et mais même à l'adolescence, t'as pas...
Non, j'ai pas tout ça, j'ai pas du tout testé tout ce qui est l'alcoolémie. Récemment, j'ai testé boire un petit peu de champagne, mais sinon...
Ouh, ça tourne la tête.
Tu sais que oui, découvrir à 28 ans ce que c'est que de se sentir ivre...
T'avais jamais bu du tout?
Si, parce que tu es en soirée, les gens ils font « Allez, goûte ça, ouais, ça. Et ça,
social.
On sent pas le goût de l'alcool. » Ça a commencé avec la manzana. Plus personne ne boit ça. C'est un truc de vieux, la manzana. Les gens disaient, on sent pas, ça sent la pomme, mais c'est tout. Et moi, donc je goûtais pour faire plaisir, parce que sinon les gens me font chier, mais me faisaient chier. Mais j'ai jamais. Non, j'ai découvert il y a pas longtemps. Et c'est Bérangère qui m'a forcé à boire un.
Bérangère Krief, donc.
Bérangère Krief, en fait, ouais. Quand elle a eu son film Adopte un veuf, là, qui va sortir bientôt, là, elle a dit champagne pour tout le monde. Et j'ai dit, mais je bois. Si, champagne. Et en fait, le truc, c'est que le soir où on l'a fait, enfin, où elle voulait qu'on sorte le... C'est quelqu'un d'autre qui a payé le champagne, au final. Donc moi, j'avais bu mon verre. Et du coup, elle dit « Ah non ! Champagne demain !» Donc en fait, pendant 3 jours comme ça, on a eu champagne, parce qu'elle n'arrivait jamais à payer son champagne.
D'accord.
Et donc pendant 3 jours, j'ai bu une coupe de champagne. Et en fait, j'ai ri très fort, très longtemps, pour tout, rien, pour toute seule. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que boire de l'alcool, et bon, pas être bourré total, mais c'est juste dire la connerie que t'as en tête et que normalement, tu dirais pas.
Voilà. Ça fait sauter les filtres.
Voilà. Et du coup, c'était intéressant de découvrir.
T'as noté
ça.
Des trucs ou pas?
C'est-à-dire, j'ai noté des trucs. Mais non, parce que j'étais même pas marrante. Mais alors, cela dit, un soir, j'ai tellement rigolé. On s'envoyait des messages. On était dans deux chambres d'hôtel. Et il y avait la chambre d'hôtel de Bérangère, ma chambre d'hôtel et la chambre d'hôtel de notre régisseuse Marion. Et en fait, j'étais au milieu. Et on s'envoyait des messages avec Bérangère. J'ai tellement ri fort que Marion à côté m'a entendu. Et du coup, on riait à 3 chambres séparées. Voilà. Juste parce que j'ai bu une coupe de champagne. T'imagines pas si je devais boire plus? ce serait une catastrophe.
Alors justement, il ne faut pas faire ça. On va rappeler que l'alcool non. est à consommer avec modération.
Mais bien sûr, bah, regarde, il n'y a pas besoin de boire beaucoup pour rigoler. Mais moi, je ne bois pas du tout. Non, du tout, du tout, du tout. D'accord. Et du coup, voilà, donc tous les
pas
trucs
de... Pas de crise d'adolescence, donc, zéro.
Bah, certainement, je ne me rends pas compte, mais du coup, je n'ai pas fait le truc de boire de l'alcool. En plus, moi, j'étais dans un lycée où vraiment, ça, on était interne, donc il y avait énormément de crises de coma éthylique. C'est-à-dire que vraiment, il y a... Non, j'ai pas... Je suis jamais allée au-delà de ça.
Ça te vient d'où, alors, ce côté petite fille qui respecte tout bien, tu penses?
Bah, je sais pas. Mes parents sont sympas, je sais pas.
Oui, t'as jamais voulu les...
Non, mais mon frère et ma soeur non plus, ils ont pas... Mon frère et ma soeur commencent à boire maintenant. Et on va avoir 30. Enfin, moi, je suis la plus vieille, mais...
Mais tes parents boivent ou pas du tout?
Ma mère, elle boit pas du tout. Ouais. Ma mère, elle s'est pris une méga cuite quand elle avait genre 16 ou 17 ans avec mon oncle. Et depuis, elle n'a jamais rebu. Et mon père, en revanche, il est amateur de vin, mon père. Mais quand j'ai eu 18 ans... En fait, quand je suis née, mon oncle et ma tante ont offert une bouteille de deux bouteilles de vin à ouvrir pour mes 18 et mes 20 ans. On a ouvert toutes les deux à mes 20 ans. Mon père était comme un taré, il était là. Tu sais, il buvait des trucs. Et moi, j'ai goûté, j'ai juste trouvé que c'était pire que d'habitude. Donc voilà. Mais mon père, il est amateur de vin. Il est très. Voilà. Mais moi, non.
D'accord. La Marine à l'adolescence, ça donne quoi?
Ça donne pareil.
Ah ouais?
Mais franchement, j'ai pas l'impression.
Une ado bien dans tes pompes et tout?
Ah ouais, ouais. Bah, enfin, oui et non. Enfin, comme une ado. Mais j'étais pas. Bon, j'avais des copains, j'étais la déléguée de classe.
Ah.
Ouais, je ne m'étais pas présentée.
Tu fais partie de ces gens pour qui on vote, c'est ça?
Mais alors en plus, j'étais interne. Bon, je me la pète un peu, mais c'est-à-dire qu'on arrive en seconde, on est interne, on ne se connaît pas. Au bout de 3 jours, il faut élire les délégués de classe. C'est moi qui suis élue, alors que je ne me suis pas présentée. Et après, j'ai été élue, évidemment, tous les ans jusqu'à la terminale. Mais voilà. Mais
t'es hyper sociable en fait, donc t'as fait plein de potes au bout de 3 jours, c'est ça déjà?
Assez, ouais, assez. Mais non, c'était cool le lycée aussi, c'était une belle période. Mais pour le coup, là, c'est là que j'ai découvert que je voulais faire du théâtre, etc. Donc je suis partie à 45 minutes de chez moi dans un lycée qui est à Tréguier, dans les Côtes d'Armor. Et du coup, c'était cool parce que je suis partie de chez mes parents à 15
c'était
ans.
C'était un lycée théâtre, c'est ça?
En fait, c'était un lycée avec une option obligatoire, okay. Tu sais, un coefficient 7 au bac. Donc c'était trop cool parce que du coup, j'étais loin, on était en terminale. Ils étaient en train de construire un nouvel internat, ils n'avaient plus assez de place, du coup, ils en ont mis une quinzaine à l'hôtel. Donc j'étais à l'hôtel, j'étais interne à l'hôtel en terminale.
C'est pas mal.
Il y avait un jacuzzi dans notre hôtel, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je m'arrêterai là-dessus.
Avec ton petit micro, c'est tout pour moi.
Oui, quand est-ce que tu décides de te mettre au théâtre?
En fait, en troisième, je faisais toujours les trucs, je faisais des personnages, je faisais rire les gens et tout. Il y avait ma prof, Madame Logéat, ma prof de français, on faisait des spectacles du collège et tout, donc j'étais toujours très investie, c'était vraiment un truc. Et en fait, je suis allée voir un spectacle de Anne Roumanoff quand j'étais en troisième. Et j'en suis sortie en me disant, mais putain, c'est un métier en fait. Il y a eu vraiment ce truc de me dire, c'est un métier, c'est incroyable. Et j'avais eu mon autographe et tout, j'étais assez fière. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire du théâtre, donc j'ai commencé à regarder. Je suis allée dans ma ville, il y avait un atelier théâtre qui était cool. Donc voilà, et en fait, moi, quand je me suis dit, j'ai envie d'être humoriste, quoi. Et en fait, du coup, mon père m'a trouvé ce lycée qui était à 45 minutes de chez moi, qui était vachement chouette, parce que du coup, tu faisais du théâtre au lycée, quoi. Et du coup, c'est lui qui m'a trouvé le truc, et du coup, j'ai passé les essais. Enfin, en gros, il fallait envoyer un dossier, avoir des bonnes notes et tout ça. Et du coup, j'ai été prise et de là, j'ai découvert le vrai théâtre. C'est-à-dire que moi, je n'avais aucune culture théâtrale. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui allait au théâtre toute jeune, tu vois. Donc, ce n'était pas du tout un truc. Et du coup, je suis arrivée là-bas, j'ai vu des pièces. En plus, la première pièce qu'on a vue, c'était vraiment un gros cliché. C'est-à-dire que j'étais genre troisième rang, un peu sur le côté. Il y avait une mare au milieu, un truc. Et ça commence, le mec arrive tout nu, il fait « Ah !» Et toi, tu te dis « Vraiment, c'est un cliché. » Et du coup, j'ai découvert et j'ai appris à aimer le théâtre. Parce que pour moi, le théâtre, c'était des portes qui claquaient, un canapé au milieu, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, je vais être comédienne, je vais être une vraie grande comédienne, je joue les grands textes. Et du coup, j'ai continué comme ça, mais du coup, et en fait, souvent aussi, moi, dans le parcours que j'ai eu, très vite, je me suis rendu compte que le one-man show, c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé et qui est perçu comme une discipline théâtrale. Peut-être que maintenant, un peu plus, parce qu'aujourd'hui, c'est très populaire, Mais il y a, à l'époque, il y a 15 ans, 12
ans. Je
pense
avant Gad Elmaleh, je pense que c'est lui qui a vraiment
ouais.
Fait
oui, c'est vrai.
Le truc, quoi.
Foresti aussi.
Toute cette
période-là. Mmh. Mais juste avant, il y avait un côté où c'était pas vraiment du théâtre, quoi. Et moi, on m'a fait bien comprendre. Mais du coup, moi, j'ai complètement aussi renié ce truc-là. En disant, moi, je veux faire des grands textes et tout ça. Mmh. Et j'ai passé tous les castings des écoles et tout ça, enfin, toutes les auditions des écoles que j'ai foirées. Mais total, c'était ridicule. Mais je suis allée au conservatoire à Rennes après. Et j'ai joué un texte de Sarah Kane. C'était un truc très fallait hurler, je bavais, j'étais sur de la moquette et tout ça. Et à un moment, c'était très fort. Hein, mais à un moment, je me suis dit, mais c'est pas ça en fait que je veux faire. C'est pas du tout mon... Et j'ai vraiment eu ce truc de me dire, c'est pas du tout ça que je veux faire. Ça...
Pendant la performance.
Ouais. Mais même si c'était un très beau moment, pour moi, je pense que j'ai jamais joué comme ça de ma vie. Mais malgré tout, il y a un truc de dire, mais ça, cette énergie-là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je suis vraiment passée de, j'ai plus du tout envie de faire ça, c'est pas un métier, c'est pas du théâtre, machin. Ah, mais si, en fait, moi, j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de raconter des trucs. Alors, parler de quoi, je savais pas du tout. Je savais pas du tout comment faire, mais il y a eu ce truc. Et je suis allée voir ma prof à l'époque du conservatoire, j'avais dit, Jacqueline, voilà, moi, j'ai plus envie, enfin moi ce que je veux faire maintenant c'est du one man show. Mais je comprends, on avait eu une grande conversation. Et la semaine suivante, elle était venue avec un texte de Raymond Devos à travailler comme du Molière. Et là, j'ai arrêté de travailler au conservatoire. C'est-à-dire que j'y allais, je faisais des blagues, j'embêtais un peu le monde, mais je travaillais plus du tout le jeu de comédienne et tout ça. Je me sentais pas comprise parce que j'avais l'impression qu'on m'avait dit oui, je t'ai compris. Et en fait, après, on me disait oui, mais en fait, finalement, on va faire à notre manière du conservatoire. Et moi, ça ne me parlait pas du tout, Raymond Devos. C'était pas du tout mon humour.
T'as quel âge, là, à ce moment-là?
J'ai 18, 19 ans. Mmh. 18 ans.
Donc, t'arrêtes. J'imagine que t'arrêtes.
J'arrête le conservatoire.
Ouais, t'arrêtes le conservatoire.
Ouais, je repasse pas la deuxième année.
Pas t'arrêtes la vie, en fait. C'est chiant.
Non, je continue. Mmh. J'arrête le conservatoire. Et là, et en fait, après, se pose la question de comment faire. C'est-à-dire, tu veux être humoriste, t'es à Rennes, qu'est-ce que tu fais? T'as jamais rien écrit, parce qu'en fait, en vrai, j'avais jamais rien écrit. J'étais à la fac quand même, j'étais en études théâtrales. Et donc, me prend encore un an avant de savoir comment faire.
Explique comment faire, parce que je pense qu'il y a plein de mademoiselles qui vivent à Rennes et partout, ailleurs en France d'ailleurs, ouais. qui ont peut-être envie de faire.
Écoute, moi en fait, j'ai pas mal cherché tout ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux écoles en France. Enfin, il y avait deux écoles, il y en avait une à Montréal et il y en avait une à Paris. Qui s'appelle l'école du one man show.
C'est l'école du bout,
du
c'est
bout,
ça
okay. En fait, voilà, mmh. C'est ça.
Le bout étant, pour les gens qui connaissent pas, le théâtre dans lequel moi j'avais découvert à l'époque
Bérangère
en 2000.
Et c'est une école moi où quand j'y étais, il y avait Charlotte Gabris, il y avait Gaspard Proust. Enfin, il y a quand même pas mal de gens qui y passent quoi. Et en fait, donc, du coup, moi je me suis dit, ok, je veux faire. De toute façon, j'avais l'impression que je pouvais pas me lancer comme ça, il fallait que je fasse une école.
C'était... Baptiste aussi, non
est passé Baptiste par là. Est passé aussi, moi je le connais. Baptiste Le Caplin. Pas vraiment. Mais ouais, voilà. Puis même plein de gens, les colocataires. Enfin, c'est chouette, il y a plein de gens quoi. Et en fait, du coup, moi je me suis dit. Je me suis dit que j'avais envie de faire ça, mais je savais pas du tout par où passer parce que j'avais rien écrit, je savais pas. Puis j'étais à Rennes, il y a un café-théâtre, j'y étais même jamais allée. J'y suis jamais rentrée avant là cette année parce que j'y ai joué. Alors que pourtant c'était dans la rue du conservatoire, donc vraiment je passais devant tous les jours, mais j'ai jamais fait le truc, jamais passé le cap en fait.
Il y avait une scène ouverte ou un truc comme ça?
Pas de scène ouverte, non, c'était que des gens qui passaient, mais normalement t'es intéressé par le one man show, tu vas voir des gens. Non, moi j'avais mon DVD de Muriel Robin et j'étais bien contente. Mais voilà, mais du coup j'ai cherché pendant assez longtemps et donc j'ai trouvé ces deux écoles et effectivement le bout c'est quand même un budget. Je sais qu'aujourd'hui, les cours ont changé, les formules ont complètement changé, donc c'est complètement différent. Mais du coup, j'ai travaillé 4 mois pour me l'offrir, en fait, à Paris. Donc en fait, j'ai travaillé 4 mois l'été et ensuite, je suis montée à Paris. Et mes parents m'ont soutenue toujours, hein, dès le départ. Mes parents m'ont dit « Oui, si tu veux faire ça, on va t'aider, etc. » Je suis montée à Paris, donc j'ai fait transférer mon dossier de fac, parce que j'étais quand même à la fac. Et je suis allée dans cette école, du bout. Et donc moi, j'avais des cours d'interprétation, j'avais des cours d'écriture et j'avais des cours d'impro. Et ce qui m'a le plus servi, c'était comme l'impro, concrètement. Parce que les cours étaient intéressants, mais si tu ne travailles pas, il ne se passe rien. Et moi, en fait, j'étais très observatrice, mais j'étais pas du tout dans... J'étais là, je venais à tous les cours, mais j'étais pas du tout, je ne jouais pas du tout ce que j'écrivais. C'était pas, c'était pas quelque chose qui pouvait se jouer, c'était quelque chose... Je crois que j'ai écrit un sketch et c'était pas très bien.
Et pourquoi tu... Parce que tu y allais un peu reculant.
Je pense que j'avais de l'appréhension déjà parce que c'est. Tu sais, tu te dis, je veux faire ça, après tu te rends compte de tout ce qu'il faut faire. Il faut écrire, il faut savoir de quoi tu veux parler. Enfin, je veux dire, monter sur scène sans aucun propos, ça n'a aucun. Enfin, après, moi je suis pas persuadée que je sais exactement de quoi je veux parler aujourd'hui encore, mais malgré tout, il faut quand même décider à un moment de dire, je veux faire un sketch, quoi. Et du coup, sans avoir vraiment de référence, sans avoir. Je veux dire, Muriel Robin, c'est sympa, mais à un moment, tu peux pas avoir que Muriel Robin, il faut avoir d'autres gens. Alors, c'était l'époque de Forêt 6. Et en même temps, en parallèle, moi j'avais pas la télé. Au lycée. Donc j'étais pas du tout dans les trucs actuels. Et puis il y avait pas vraiment internet, c'était les débuts. Enfin, il y avait un truc comme ça où t'étais dans un. Oh là là, je me sens vieille.
Non, mais.
À l'époque, il fallait faire.
À l'époque. T'as quel âge? T'as 30 ans là?
Je vais avoir 30 ans là, le mois prochain, ouais. Mais. Ouais, donc voilà, il fallait. Je savais pas du tout des trucs, quoi. Et donc du coup, fallait. Effectivement, j'étais beaucoup dans le. Et puis j'avais la sensation quand même que à ce moment-là, dans cette école-là, j'avais l'impression qu'on arrivait tous à être les mêmes en fait à terme de ce truc-là. En fait, t'es tout le temps ensemble, donc forcément, tu crées ensemble, tu fais les trucs, donc voilà. Et à terme, j'avais l'impression voilà de. Mais ce que j'ai préféré faire, c'était l'impro. Vraiment, c'est ce que j'ai préféré faire. Mais de ces deux années que j'ai faites là-bas, j'en sors des contacts, des gens que je vois encore aujourd'hui et qui avec qui je progresse, des gens que je vois évoluer. Mais j'en sors pas une vraie expérience. Je suis pas montée sur scène. Je fais de l'impro, si, j'avais des spectacles d'impro, mais je suis pas montée sur scène.
Ok.
Et en fait, ce qui m'a fait monter sur scène, c'est... à Rennes, moi, j'avais rencontré ma meilleure amie, qui est Luciole, qui est une chanteuse, slameuse, et ici, vous pouvez voir son... Et en fait, Luciole est montée à Paris en même temps que moi, pour des raisons différentes, mais elle est montée à Paris. Donc du coup, moi, j'ai découvert le monde du slam. Et par le slam, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens, dont Rim, en fait, qui est une slameuse et qui avait un projet... Enfin, on lui a commandé un projet d'un spectacle de slam contre les discriminations, de lutte contre les discriminations par des avocats, en fait. Le syndicat des avocats de France. Et donc du coup, en fait, elle m'a engagée pour mettre en scène un spectacle de slam. Donc, qui n'était plus du tout du slam, du coup, mais voilà, un spectacle de slam. Et donc, du coup, comme ça, j'ai rencontré Candy, qui est une autre humoriste, qui m'a fait rencontrer Shirley Soignon. Et du coup, en fait, j'ai fait la mise en scène de Shirley Soignon. Et j'ai aussi. Et donc, j'ai commencé à faire les premières parties de Candy avec des choses à moi. Et donc, c'est comme ça vraiment que je suis rentrée, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. C'est en jouant, en fait, que j'ai commencé.
T'as commencé à faire de la mise en scène de Shirley avant même d'avoir de l'expérience ouais. de la scène.
Entre temps, j'avais écrit quand même un texte à la fac que j'avais mis en scène. Ouais. Ça m'avait pris un an, mais non, j'avais pas vraiment de. J'ai commencé par Shirley. Donc je jouais pas du tout.
Comment tu fais alors pour passer de j'ai envie de monter sur scène à un jour je rencontre Shirley. J'imagine que ça se passe bien entre vous.
Oui,
on vous avez
bien,
envie de bosser
on
ensemble.
On se connaissait pas presque pas. Hein.
Ouais, ouais. Donc j'imagine qu'à un moment donné, tu la mets en scène. Comment tu passes de ça à ça?
Et je serais incapable de te le dire, en fait. Ouais. Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que moi, mon envie à moi, elle était d'être humoriste. Elle n'était pas d'être metteur en scène. De faire de la mise en scène, ça a été un truc qui s'est rajouté à ça, qui s'est amené. J'ai pas du tout eu envie de faire ça. Donc en fait, comme j'avais des textes que j'avais écrits pour la pièce à la fac, je pense que je les ai mis... je les ai transvasés... Enfin, quand il m'a proposé de faire ses premières parties, je les ai faites avec des trucs que j'avais qui étaient de cette pièce-là, qui n'était pas une pièce drôle du tout d'ailleurs, mais il y avait des petits textes dedans comme ça. Et j'ai commencé à le faire, mais je saurais pas te dire en fait. Ça s'est fait.
Ça se fait naturellement.
Ouais. Ouais, je dirais ça. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai l'impression que tout ça, tout ce que je fais aujourd'hui, vient du fait que j'ai rencontré Luciole. Tout mon réseau.
Et Luciole, tu l'as rencontré quand en fait?
Au conservatoire. On était au conservatoire ensemble.
D'accord.
Et elle a continué plus longtemps que moi, mais moi je suis pas allée au bout. Mais et du coup tous les gens que j'ai rencontrés, parce que du coup j'ai rencontré Luciole, mais elle m'a fait rencontrer les gens du slam, qui m'a fait rencontrer Candy, donc Shirley, et donc aujourd'hui tout mon réseau.
Et Luciole était dans une formation de théâtre aussi.
De théâtre à la base, okay, ouais. On était ensemble dans le conservatoire dans la même classe.
Ok. Donc Luciole qui chante.
Qui chante aujourd'hui.
Et alors que moi je connaissais par ailleurs. Un jour je t'ai découvert toi, et puis un jour j'ai découvert qu'en fait vous étiez le meilleur pote.
Ouais.
C'était bizarre. Le monde est petit.
Le monde est petit, le monde est tout petit.
Très bien. Comment ça se passe ensuite alors, parce que moi, je t'ai vu la première fois sur scène quand tu étais aux Trois Bornes.
Ouais.
Bonjour, je suis en train de mettre en scène, donc je fais les premières parties de Candy. Je monte tout seul sur scène pendant
une heure. Ouais. Comment ça se... Comment, c'est quoi le chemin?
Écoute, assez vite, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une demi-heure dans un truc qui s'appelait l'Espace Saint-Honoré à l'époque. Et en fait, j'ai partagé la scène avec un mec qui s'appelle Sébastien et on était tous les deux, enfin voilà, on a partagé et c'était pas un enfin c'était un théâtre mais c'était voilà, et il y a des gens qui sont venus. Moi j'avais pas beaucoup de réseau parce que moi j'arrivais à Paris, je connaissais personne, donc tu sais au début quand tu joues normalement c'est tous tes copains qui viennent, et moi j'avais Luciole, j'avais Candide, etc., mais j'avais pas grand monde, donc j'ai commencé par faire une demi-heure et puis après j'ai fait les plateaux, j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup de concours. Et c'est là que j'ai... En plus, moi, Shirley, elle m'a suivie quand même. On a fait les Queens of Comedy. Alors, en fait, c'est très flou dans le temps pour moi, tout ça, parce que j'ai l'impression que c'était hier et en même temps que c'est...
Ça t'a pris combien de temps, en fait, entre le moment où tu...
Ça fait longtemps, regarde, j'ai 29 ans.
T'avais...
J'ai 29 ans, je pense que j'ai commencé à faire... à écrire des trucs 23, 22, 23. À commencer à faire ces trucs-là, et après...
Les trois bornes, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, 3 ans?
J'ai arrêté les trois bornes il y a 1 an.
Ok.
Donc, et j'ai fait 3 ans. 2 ans? 2 ans. 2 ans, 3 bornes.
Ouais, c'est ça, moi je t'ai vu la première année, donc c'était il y a 3 ans.
Ouais, et en fait j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup de plateaux, j'allais jouer sur tous les plateaux, les trucs et tout. Et de là, ouais, j'ai fait beaucoup de concours et il y en a un que j'ai fini. Donc en fait j'ai fait mon... bon, attends. J'ai fait ça après. En fait, je me suis dit à un moment, parce que je bossais à côté, parce que j'ai arrêté la fac à un moment et j'ai travaillé chez Naturalia. Et de chez Naturalia, en fait.
Dont tu parles dans ton spectacle.
Alors maintenant, c'est vraiment un tout petit bout. Mais ouais, avant, ça a été un vrai sketch. Mais bah, c'était une grosse partie de ma vie. C'était ma journée, c'était mon travail le jour. Donc je faisais 10h, 20h15 et après, j'allais faire des plateaux. Donc c'était quelque chose. C'était fatigant.
C'était sportif. Hein.
Mais j'ai l'impression de me perdre dans tout ce que je te raconte.
Non, pas du tout.
Non, c'est intéressant, ça ne passe pas trop chiant.
Tout à fait.
Et donc voilà. Et donc,
t'as fait plein de concours, en fait. C'est ça.
J'ai passé plein de concours. Et je me suis décidée à faire Avignon. Je me suis dit, je vais faire Avignon cette année. Tout l'argent que je gagne, etc., je mets tout de côté et je fais Avignon. J'avais fait un truc de... J'avais fait un Kiss Kiss Bank Bank à l'époque. J'avais eu des sous, pas mal, et tout ça. J'avais eu 4000 euros, je crois. Et j'ai fait Avignon. Et,
pourquoi tu décides de faire Avignon?
Parce que c'est un rêve.
Ah, ok.
C'était un truc... moi, j'avais fait Avignon dans une colo. Quand j'étais avec les PAF, donc le truc des colos du ministère des Finances. Parce que rappelons que ma mère travaille aux impôts. Et j'avais fait une colo, j'étais restée 3 semaines au Festival d'Avignon et j'avais vu un nombre de trucs hallucinants, j'avais vu plein de pièces, j'avais vu... C'était trop bien, quoi. Et c'est, l'univers d'Avignon était incroyable pour moi, j'étais retournée entre-temps et tout. Pour moi, c'est quelque chose de fou, quoi. Avignon, c'était... Le faire en tant que comédienne, pour moi, c'était une sorte d'aboutissement, quoi. Et après, une fois que j'ai été à Avignon, j'ai bien morflé. Mais j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé. Il y avait Aude et Joachim, un tourneur et quelqu'un qui m'a aidé pour le management. Et du coup, en fait, ça m'a aidé aussi à me dire oui, c'est vraiment bien, c'est vraiment ma voix, c'est vraiment. Et donc, du coup, j'ai pas vendu beaucoup de dates, mais pour le coup, j'ai pu jouer beaucoup. En fait.
Pourquoi tu dis que t'as bien morflé?
Parce que c'est dur, Avignon.
Ah.
Avignon, c'est horrible parce que c'est très cher.
Ouais.
C'est dur physiquement. Tu joues tous les jours pendant 3 semaines. Il y a entre 1300 et 1600 spectacles qui se jouent par jour, il faut tracter, il faut que tu passes ton temps à dire aux gens que t'es la meilleure, et il faut tracter, il faut aller voir les gens, il faut aller chercher tes spectateurs. Et c'est fatigant parce que t'es dans une angoisse de ça coûte très cher, il faut que je rentre dans mes frais, et en même temps il faut que je sois bien parce qu'il y a des pros qui viennent voir. En fait, vraiment Avignon c'est un grand marché. C'est-à-dire que t'as vraiment beaucoup de pros qui viennent, ils vont voir plein de spectacles, et à la fin ils font « toi, 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 et voilà ma programmation de l'année ». Et c'est compliqué, enfin faut assurer, faut pas y aller à avoir rien derrière, c'est vraiment... parce que c'est trop cher, tu peux pas y aller. Enfin, si tu vas que pour l'expérience, qui était un peu mon cas, mais je cherchais quand même à être découverte. Nanana.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Enfin voilà. Bref, et donc en tout cas, j'ai fait Avignon. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai trouvé des partenaires. Et surtout, cette année-là, j'ai gagné le Festival de Montreux. Et ça, c'était incroyable. Parce que du coup,
Alors pour remettre dans le contexte, le festival de Montreux, c'est tous les ans, au mois de décembre.
Décembre, ouais.
À Montreux, donc en Suisse.
En Suisse.
Il y a...
Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent qui n'est pas du tout l'accent d'Afrique.
Je sais pas, moi non plus.
Qui n'est pas du tout un accent d'ailleurs.
C'est pas... donc ils organisent un concours de jeunes talents, en fait. Et donc tu as participé.
J'y ai participé et cette fois-là j'ai gagné. C'est-à-dire que moi, tous les concours que j'ai faits, je les ai tous perdus. En fait, le jour, il y avait un jour une sélection de concours, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai eu la grâce. J'ai été prise dans 7 festivals, j'en ai fait plein. Je les ai tous perdus, mais vraiment, je me suis viandée lamentablement. Et Montreux, je ne sais pas ce qui se passe, je gagne. Mais je le sentais. Hein. Tu vas, tu as la gagne, tu sais que ça va bien se passer, tu le fais, tu dis voilà. Il y avait un vrai truc, tu fais bim. Et j'en ai pas regagné. Et la même semaine où j'ai gagné Montreux, j'ai fait un autre concours qui était loin, c'était en première partie de Tex, et j'ai perdu. Contre des gens qui n'étaient pas forcément humoristes. Et tu te dis, ok,
contre
bon,
mon
okay on va redescendre 2 secondes.
Il y avait mon père dedans et t'as perdu, c'est mon père qui a gagné.
C'est ça.
C'est la première fois qu'il montait sur scène, il t'a éclaté.
Il a fait un bide, mais... Il... mais voilà, et donc du coup, j'ai gagné mon truc et pour moi, ça a été un vrai truc. Et du coup, ça a été le bon moment pour arrêter Naturalia et pour me dire, je vais continuer. Dans le sens où on parlait de mes parents m'ont soutenu. C'est-à-dire que j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, voilà, je pense que c'est maintenant qu'il faut que j'arrête de travailler. Parce que là, je pense que c'est maintenant que je peux devenir intermittente. Et ils m'ont dit, bon, bah, ok, on va t'aider quand tu n'arriveras plus à boucler tes fins de mois, parce que je ne gagnais pas un très gros salaire quand même chez Naturalia, c'est-à-dire que tu es vendeur en fait. Hein, donc, et donc, du coup, quand tu es au chômage, parce que Naturalia m'a aidé quand même à partir, et tout ça. Et donc, du coup, en fait, j'étais au chômage, mais je ne gagnais pas bien ma vie, mes parents m'étaient au bout, et c'est là où j'ai quand même beaucoup de chance, parce que c'était. Parce que du coup, je ne me rémunérais toujours pas vraiment, parce que j'avais Avignon que je refaisais une deuxième année. Donc, voilà.
Oui, bah, de toute façon, je pense que tu ne peux pas devenir humoriste aujourd'hui sans être un minimum aidé.
Ah oui, mais c'est
quand
sûr.
Quand tu démarres, quoi,
ouais,
c'est pas possible.
C'est sûr.
Il faut avoir des sous.
C'est sûr.
Ou trouver un sugar daddy. Ou,
ouais. Bref. Ouais, non, c'est vrai. Mais donc, du coup, voilà, donc j'ai fait ça. Et en même temps, en fait, en parallèle de tout ça, moi, j'ai eu cette chance-là à un moment de. Moi, j'ai rencontré Bérangère il y a très longtemps, sur des plateaux. Et Bérangère est devenue connue grâce à Bref et grâce à Mademoiselle, qui fait des carrières, on le sait. Et du coup, en fait, je l'ai croisé et moi, je demande jamais rien aux gens. Il n'y a jamais un truc où, jamais un moment où je dis aux gens, salut, j'ai besoin de toi. J'essaye de le faire maintenant parce qu'il faut, en fait. Mmh. Mais et je sais pas pourquoi, je croise Bérangère chez une autre copine Delphine. Elle venait chercher son chat et revenait de vacances. Et je lui dis, est-ce que tu prends des premières parties? Elle commençait à jouer au grand point virgule. Je lui dis, tu prends des premières parties? Elle me dit, bah non. Et je lui dis, bon, ok. Et elle me dit, mais pourquoi? Mais vraiment, plus longtemps. Tu sais, on discute d'un autre truc. Après, elle fait, pardon, pourquoi? Alors je lui dis, mais parce que je commence aux trois bornes, et j'ai besoin de faire ma com, j'ai besoin de remplir ma salle, quoi. Et elle me dit, bah non, je suis désolée. Après, on rediscute de trucs, elle me fait, en fait, je vais demander. Mm. Elle dit, je dis, bah ok, cool. Et elle me rappelle, elle me dit, écoute, j'ai demandé, et malheureusement, il y a Jérôme Daran qui commence juste après moi, il n'y a pas le temps, et je suis désolée, il commence la semaine prochaine. Et après, elle fait, mais... Attends, il commence la semaine prochaine, donc tu peux venir cette semaine. Et donc j'y suis allée en fait pendant une semaine, pendant 3-4 jours en fait, et ça s'est hyper bien passé. Moi, ça m'a évidemment fait vendre des places, etc. C'était trop bien. Et en fait, elle a kiffé, elle, d'avoir quelqu'un dans sa loge avec elle, elle n'était pas toute seule. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, ils se sont rendus compte au point virgule qu'ils pouvaient mettre des premières parties. Bon, moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, si ça se trouve, ça s'est passé autrement. Mais... Mmh. Et du coup, en fait, ils ont commencé à faire venir des gens. Et donc Bérangère a fait en sorte que je vienne de temps en temps. Puis qu'il n'y ait que moi ou que Marc-Antoine Lebray. Puis, en fait, à terme, Marc-Antoine Lebray, bah, ça a marché pour
parti,
lui. Ouais. Et bah, du coup, il n'avait plus besoin. Donc, il n'y avait plus que moi, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait toutes les premières parties de Bérangère. Ça fait 3 ans que ça a commencé, ce truc-là. Et en fait, à un moment, ils m'ont amené en tournée. Voilà. Et ça, c'est incroyable parce que ça, du coup, je pense vraiment que d'avoir gagné Montreux, c'était un vrai truc. Et d'avoir eu la chance d'être d'un coup avec Bérangère sur. Toutes ces scènes, j'ai appris énormément. Je te raconte toute ma vie alors que tu m'as posé une question. Comment vont tes parents ?
Explique-lui.
et non, en fait, ça m'a. C'est-à-dire que d'un coup, maintenant, moi, j'ai l'impression que j'ai plus peur de rien, en fait. Alors qu'en vrai, sur le moment, j'ai peur, mais dans le sens où elle m'amène avec elle et du coup, les gens ne m'attendent pas. J'ai pas à me soucier de savoir s'il y a du monde ou pas dans la salle. Je sais qu'il y en a.
Il y a toujours du monde.
Ça, c'est vrai, il y en a toujours. Les gens sont toujours sympas. Bérangère, elle a un public qui est vraiment chouette. Parce qu'il y a des publics qui sont plus durs que d'autres, et pour le coup, Bérangère, elle a vraiment un public, c'est des petits choux, quoi, les gens. Donc voilà, j'arrive là, j'ai soit 7 minutes, soit 20 minutes, mais en tout cas, il y a un vrai truc de... les gens m'attendent pas, ils s'en foutent, et en même temps ils rentrent dedans et ils sont sympas avec moi et c'est vraiment chouette. Et du coup, moi ça me permet de remplir ma salle, mais je gagne une expérience incroyable. Je veux dire, je fais des salles incroyables avec Bérangère. On a fait la Cité des Congrès à Nantes, c'est immense, on a fait le Radiant à Lyon, c'est une salle incroyable. J'ai fait le Bataclan 5 fois, c'est incroyable. Enfin, moi j'ai cette chance-là, Bobino, enfin, j'ai cette chance-là en fait de l'accompagner dans un succès qui est grandissant et en même temps du coup moi d'apprendre, de prendre en expérience et ne serait-ce que moi en jouant, c'est-à-dire du coup je prends confiance, incroyable, enfin c'est incroyable, j'ai pu tester devant des salles hyper grandes plein de choses et en plus les gens me suivent après, j'ai un vrai retour concret quoi et ça c'est une chance incroyable et aussi j'ai la chance de voir quelqu'un qui grandit et qui évolue. Moi, ça fait 3 ans maintenant, je la connais depuis plus longtemps, mais 3 ans que je la suis vraiment au quotidien, de voir quelqu'un qui évolue, d'avoir un spectacle qui change, comment d'un coup, moi, ça a modifié ma façon de travailler.
Comme dirait le jargon cycliste, tu t'es un petit peu mis dans sa roue.
Je me suis mis dans sa roue, complètement.
Tu vois même, ils disent tu suces sa roue. Hein,
je suce complètement la roue de Bérangère.
C'est le jargon cycliste, hein, on ne va pas les juger.
Tu fais un petit peu de vélo, toi-même?
Non, mais oui, un peu, quand j'étais jeune. Bref, on s'en fout. Je trouve que cette métaphore est marrante.
Je suis dans sa roue et du coup, c'est une chance pour moi, quoi, voilà, vraiment.
Il faut qu'on parle encore de 2 trucs, notamment. Il faut qu'on parle de Boobs and the Gang.
Yeah.
Qu'est-ce que c'est que ce
truc? Parce qu'en étant dans la roue de Bérangère et en suçant sa roue...
Vraiment, je vous ai vu la première fois, j'ai fait... Alors, elles sont vraiment en train de se droguer, très bien. Non, c'est sûr que non, je savais très bien que vous ne droguiez pas. Mais vraiment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, vous avez tenu...
On tient. On est moins actifs parce que... Bah, au bout d'un moment, on se voit moins en ce moment parce qu'on est moins en tournée, et tout ça. Puis surtout, voilà, la vie, des moments, tu sais, t'as des moments, t'es complètement dans le truc, puis d'autres moments, ça. Alors, Boobs and the Gang, c'est ça. Non, en fait, avec Bérangère, on est en tournée, et en tournée, on rigole beaucoup, évidemment. Et en fait, on suit pas mal des blogueuses. Et en même temps, on n'en suit pas tant que ça, on en suit quelques-unes. Et donc, du coup, en fait, ça nous fait beaucoup rire, les blogueuses nous font beaucoup rire. Coucou les filles. Et du coup, un jour, en fait, elle avait reçu des t-shirts d'une marque qui s'appelle... Enfin, ouais, d'une marque. Et en fait, elle devait faire des photos et on était sur la plage à Noirmoutier. Et donc, moi, je fais des photos d'elle. T'étais là, tu fais, vas-y, ok, pour qu'elle les mette sur Instagram pour remercier. Et en fait, à un moment, je lui dis, fais ta jambe comme une blogueuse. Donc, elle fait comme ça. Et du coup, en fait, on a commencé à faire plein de photos qu'on appelait, nous, des photos de blog. Et en fait, on a commencé à rigoler. On s'est dit, mais putain, mais en fait, il faut qu'on fasse un vrai blog. Et en fait, sur cette plage, on s'est dit, on crée un Instagram, on s'en fout, et on cherchait un nom, et on voulait appeler ça Martine et Véro, qui sont les noms de nos prénoms de nos mamans. Et en fait, à un moment, je sais pas pourquoi, elle avait un t-shirt qui s'appelait Beach, enfin, où c'était écrit Beach Boob Inspector, et on avait fait une photo où il y avait mes seins et juste et Bérangère qui était comme ça avec le t-shirt, et je dis Boobs and the Gang. Et je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais ça m'est venu, et en fait, ça nous a fait beaucoup rire. Et en fait, pendant très longtemps, vraiment, enfin, ça a l'air d'être pris en 2 minutes ces vidéos de Boobs and the Gang, mais en vrai, ça nous prend vraiment des heures. Il y en a une où vraiment, on a passé vraiment 2 heures à faire ça, à refaire, à rigoler. Et en fait, ça nous fait beaucoup rire. Et le truc, c'est que les gens nous ont suivis. Alors après, on a 7000 followers, mais malgré tout, les gens nous ont suivis. Et c'était un truc de fou. Et c'est tout. Et on s'est retrouvés, par exemple, à l'Olympia. Bérangère a fait l'Olympia. Il y avait Christina Cordula qui était invitée. On arrive, et la première chose que Christina Cordula me dit, mais ah, j'adore Chris! Et je fais, ah! C'est-à-dire que d'un coup, Christina Cordula me connaît parce que j'ai fait coucou les filles. C'était incroyable. Et tout le monde nous en parlait. C'était trop marrant. Et donc, vraiment, c'est juste un gros délire en fait, de 2 filles qui font les blogueuses. Voilà. Et c'est un vrai délire de copine. Et pour le coup, c'est vraiment très marrant. Enfin, c'est très marrant. Mais j'espère qu'on va refaire d'autres et qu'on va pas abandonner l'idée, le truc.
Ça serait dommage.
Ça serait dommage.
Tu parlais aussi de tes influences. Donc, ouais. T'as beaucoup parlé, mais sans en parler vraiment, de Muriel Robin.
Ouais.
Et puis aussi d'Anne Roumanoff, qui t'a en fait fait prendre conscience, si j'ai bien compris, en troisième, que c'était un métier, et pas juste de monter sur scène pour faire des blagues.
En fait, mes influences, elles ont évolué au fur et à mesure. J'ai pas laissé terminer ta question.
Non, vas-y.
Mes influences, elles ont évolué au fur et à mesure parce que, au début, moi, je connaissais que Muriel Robin, en fait. Les petites annonces d'Eli, évidemment, qui était un truc. Les Robins des Bois. J'avais vu Valérie Le Mercier sur scène, ça avait été un truc incroyable pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me suis dit que j'allais faire ça, quand j'ai vu Anne Roumanoff sur scène, et qu'ensuite je me suis dit que j'allais faire ça, Muriel Robin, j'étais trop fan, etc. Mon oncle m'a offert des places, on m'a dit, moi je rêvais d'aller voir Valérie Le Mercier. Et pour mon anniversaire, ma mère, elle me dit, demain, tu pars à Paris, ton oncle t'offre le voyage à Paris, et tu vas voir une pièce avec Muriel Robin, et tu vas voir Valérie Le Mercier en spectacle. C'était incroyable. Pour moi, c'était incroyable. En plus, j'étais tombée dans les pommes pendant la pièce de Muriel Robin, parce que je ne sais pas, j'ai fait un truc de sucre ou j'en sais rien. Enfin, je suis tombée dans les pommes pendant la pièce, ce qui fait que je l'ai rencontrée après. C'était incroyable pour moi. 3 secondes, hein, mais ça n'avait, c'était fou. Et j'ai vu Valérie Le Mercier, et ça a été vraiment encore, ça a confirmé mon envie de faire ça, en fait. Et voilà, je connaissais pas trop les trucs, j'ai pas une grande culture en fait, j'ai une culture qui se forme au fur et à mesure, je connaissais pas, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce métier-là, en fait, il y a plein de gens qui me disaient, bon, quelles sont tes références américaines, quel américain tu préfères, et moi je les connaissais pas, et pendant très longtemps, j'ai pas voulu les regarder, je voulais vraiment prendre le temps, en fait, j'ai l'impression en fait que les Américains, ils ont tellement tout fait, que je me dis, j'ai tout le temps peur de découvrir que j'ai fait telle blague, et qu'en fait, elle a déjà été faite, ou mon idée est déjà faite ailleurs. Et donc du coup, j'ai mis du temps avant de découvrir ça. Et en fait, du coup, je suis vraiment arrivée dans ce métier-là en disant, moi j'aime Valérie Le Mercier, j'aime Muriel Robin, j'aime Florence Foresti, très grande fan de Florence Foresti. Et je voulais pas. Et en fait, du coup, après, mes références sont devenues les copains que j'avais, parce qu'en fait, je les avais pas du tout. Enfin, j'allais voir que les copains, en fait. Donc Christine Bérou, je suis très fan de Christine Bérou. Pour moi, Yacine Bellouse. Enfin, là, c'était des gens. J'adorais ce qu'il faisait, j'adore, je trouve ça incroyable. Et en fait, du coup, j'ai un peu laissé ça. Et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait autour. En fait, j'ai commencé par Talking Funny, que à peu près tout le monde a vu, mais les gens m'en parlaient comme d'une évidence et que je connaissais pas du tout.
Talking Funny, c'est pour les gens qui connaissent pas, les mademoiselles, c'est une émission avec 4 énormes noms du stand-up US. Donc, t'as Ricky Gervais.
Ouais.
Chris Rock, Louis C.K. et Jerry Seinfeld qui parlent pendant une heure de leur métier. Et c'est passionnant.
Et c'est passionnant. Et moi, c'est venu en fait à un moment où je me posais des questions de comment être plus drôle, comment être plus efficace. Parce que pendant très longtemps, je me disais que j'étais quelqu'un qui faisait pas rire mais sourire. Et du coup, je crois que j'avais peur. Et puis surtout, je pense que j'avais pas un matériel qui était suffisamment drôle. Donc tu te rassures en te disant que. Bah que c'est normal que toi, les gens y réfléchissent plus, puis de toute façon, toi, tu fais du théâtre. Moi, j'arrivais avec toutes mes grandes conceptions de « oui, moi, j'ai fait du théâtre, moi, le théâtre classique, c'est important pour moi. » Enfin, classique, le théâtre, c'est important pour moi, je veux que ça se sente. Je voulais que ça se sente vraiment, je faisais de la déclamation baroque au début. Ça fait pas très longtemps que j'ai enlevé ça de mon spectacle. Pour moi, je voulais vraiment qu'on pense que j'étais une vraie intello, sauf qu'en fait, en vrai, c'est du vent. Et du coup, j'ai commencé à me poser ces questions-là et j'ai découvert ça, j'ai découvert Hélène DeGeneres. J'ai adoré parce que du coup, en fait, tous les jours dans son spectacle, elle a un show aux États-Unis et tous les jours, elle commence par un petit stand-up et j'en ai vu plein et je me suis dit, on peut parler de tout et être drôle, en fait. Et ça m'a vraiment intéressée et du coup, j'ai découvert le SNL, le Saturday Night Live, ici. Et ça a été encore une autre révélation et du coup, j'ai découvert Tina Fey, j'ai lu le bouquin de Tina Fey. Le bouquin de Tina Fey, pour moi, c'est devenu instantanément mon livre préféré.
C'est Bossy, là, c'est ça ?
Bossy Pants. Écoute, dedans, il y a des trucs géniaux, des vrais trucs. À un moment, elle dit, par exemple...
C'est ça, sonne.
Le
T'inquiète.
Four est... La tartiflette est prête. Elle dit à un moment... elle parle de sa vie, mais par ailleurs, elle donne des conseils de vie qui sont hyper intéressants. Elle dit, par exemple... entre femmes, en fait, quand il y a des femmes, on vous dira toujours que vous devez vous mettre en comparaison. On dit toujours, ah, c'est compliqué, il y a une autre femme, du coup, vous allez être en comparaison. Et elle dit dedans un truc, juste elle dit, non, vous n'êtes pas en comparaison avec les autres femmes, vous êtes en comparaison avec tout le monde, en fait. Et après, elle dit, et aussi, portez tout le temps un soutien-gorge. C'est très important. Voilà, et du coup, c'est hyper intéressant. Tout ce que j'ai appris dedans, c'était hyper intéressant. C'est encore des choses qui ont fait évoluer mon travail et évoluer mon intérêt pour ce métier-là. Et après, j'ai découvert Amy Poehler, Amy Schumer, je suis en amour pour Amy Schumer, évidemment. Et voilà, et j'apprends, et grâce à Netflix, en plus, on voit plein de choses. J'ai l'impression de vraiment que ça, c'est beaucoup plus riche, quoi.
Pour l'instant, sur la scène du humour, il n'y a pas des masses de filles. Non, mais c'est vrai.
Mais je ne me rends pas trop compte, en fait.
Bah, on est encore très loin de la parité.
On est loin de la parité, je suis d'accord.
En fait,
c'est vrai.
Partons du principe que la parité est la norme.
Ouais, c'est vrai.
On est extrêmement loin de la parité.
Ouais, non, c'est vrai.
Et... Tu penses que le fait que des filles comme Bérangère, comme toi, comme Shirley, et comme plein d'autres en fait, de cette génération-là montent sur scène, moi j'imagine qu'il y a sans doute des filles qui sont en troisième et qui vont te voir ou qui vont voir Bérange et qui se disent « Ah putain, en fait, c'est un vrai métier. »
Ouais.
genre 15 ans plus tard.
15 ans plus tard, ouais. C'est bien qu'il y ait des filles qui s'y mettent et qui parlent. Je me rappelle plus de son nom, Parapluie Jaune. Jaune Parapluie.
Anouk.
Anouk. Mm. Elle est géniale. Elle est arrivée, mais son matos, il était tellement fou. On a fait la soirée One Match Show. Mm. Et c'était tellement. Elle est arrivée, mais c'était fou. Mais c'était un niveau de ouf. Et elle débute, tu te dis, mais oh, c'est incroyable. Mais en fait, la différence, c'est qu'elle a. Elle, tout de suite, elle a accès, grâce à Internet, etc., à toutes les références que moi, j'ai mis du temps à avoir. Et du coup, c'est génial de voir. Elle arrive et elle est. Pouah, c'était trop bien. J'ai adoré. C'était intelligent, c'était. Pff.
T'as fait évoluer tes textes aussi ?
Énormément, ouais. En fait, moi, j'ai un vrai éveil par rapport au féminisme qui est tardif. J'ai toujours pensé que le féminisme, j'étais croyante, mais non pratiquante. C'est-à-dire que, pour moi, c'était quelque chose d'acquis. Et je pense que ça vient de mes parents, notamment.
Oui, parce que t'as
j'ai eu une enfance... j'ai été élevée dans l'amour, etc. Mais aussi, j'ai été élevée dans la parité. De... En fait, pendant très longtemps, je me suis souvent dit, je disais, enfin là, je dis dans mon spectacle que mon père fait beaucoup. Mais c'est vrai, c'est mon père qui nous a amenés à l'école, c'est mon père qui fait à manger, c'est mon père qui fait nos ourlets. C'est mon père qui fait le jus d'orange, évidemment. Et c'est mon père qui fait nos ourlets, ma mère, elle fait pas ça. Et en fait, pendant longtemps, je me disais, mais mon père fait beaucoup et ma mère fait rien. Et en fait, j'ai réalisé, il y a pas 30 ans, non, mon père fait pas beaucoup et ma mère fait rien. C'est juste que mon père fait normalement exactement le même nombre de choses que ma mère. Et du coup, pour moi, c'est normal, en fait. Et en fait, quand je dis mon père fait beaucoup, c'est que mon père fait beaucoup par rapport à la plupart des hommes que je voyais autour de moi, en fait. Et c'est ça, c'est là que j'ai compris. Et ça fait vraiment pas longtemps que j'ai compris qu'en fait, mon père fait pas moins de choses que ma mère. C'est juste qu'ils sont dans un couple qui est dans l'égalité, en fait. Et qui est dans le même investissement par rapport à leurs enfants, à leur carrière, par rapport à tout, en fait. Et du coup, je pense que c'est pour moi, je l'analyse comme ça, dans un truc de je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu la sensation d'avoir besoin d'être féministe, parce que pour moi c'était un fait, en fait, que les hommes et les femmes étaient égaux et qu'on pouvait faire tout pareil. Enfin, pour moi c'est un fait, en fait, et ça fait pas très longtemps que je me rends compte, et notamment parce qu'en fait notamment par ce site, quitte à faire un petit peu de suçage de boules, voilà. J'ai un peu honte de l'avoir dit maintenant que je l'ai dit. Non, mais c'est, moi, par le site, j'apprends plein de choses, je m'éveille beaucoup plus. Et effectivement, j'ai changé des choses dans mon spectacle. Par exemple, en écoutant le podcast de Navo sur le féminisme. Et à l'époque où Navo faisait des conversations chez lui avec des gens. Et sur le féminisme, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je disais et qui m'ont choqué de moi-même, en fait. Parce que t'es dans des stéréotypes et des choses qu'en fait, finalement, on n'a pas envie de passer. Mais après, moi, mon spectacle, par exemple, est écrit à... Mon spectacle écrit, rien n'est sexué, sauf maintenant mon sketch sur les slips, j'avoue, les slips. Mais sinon, c'est jamais
les mecs, les filles.
Mm-hmm. J'ai essayé de passer comme ça, voilà. Mais en tout cas, j'ai fait évoluer ça, j'ai fait évoluer en tout cas mon spectacle, oui, c'est sûr, pour faire en sorte que. Mais j'aimerais bien parler de féminisme, mais j'arrive pas.
Ah.
Dans mon spectacle. Oui. On en a déjà parlé, mais j'arrive pas.
Un jour, tu y arriveras.
Oui.
Je suis sûr, ça viendra. Et puis merci aussi, parce que en fait, les mademoiselles peuvent te remercier. Je ne sais pas si elles le savent, et si, enfin moi je l'ai dit quand on avait l'occasion de le dire, mais c'est grâce à toi qu'on a le One Match Show aujourd'hui.
C'est grâce à moi qu'on a le One Match Show.
Non mais c'est vrai. T'es venu un jour, tu m'as appelé en me disant, vous organisiez avant avec Christine.
Avec Christine, on a fait des soirées BNB, Bérou et Baousson, et c'était vraiment trop cool. Et en fait, Christine à un moment a été submergée de boulot. Et moi pas. Et donc du coup, en fait, je me suis dit, on s'est trop amusé sur cette belle scène qui est la nouvelle scène. On s'est trop amusé, c'était trop chouette. J'avais envie de continuer ce plateau. Et je me suis dit, mais encore une fois, faire un plateau, c'est compliqué de remplir. Quoi qu'il arrive, mon spectacle, c'est compliqué de remplir. C'est tout le temps. Et je me suis dit, qui a un public, à qui j'ai envie de faire découvrir des gens, en fait, vraiment. Et du coup, je suis venue te voir parce que, ouais, je me suis dit, ça peut être chouette d'avoir... qu'on fasse ça ensemble, et aussi parce que ça permet d'avoir des gens qu'on n'aurait pas forcément, des gens auxquels on pense pas. Enfin, moi, j'aurais jamais rencontré Émilie Gassin, par exemple, si jamais... Et là, Émilie, je peux l'annoncer, c'est une surprise, elle n'est pas annoncée, mais Émilie sera là pour le prochain One Match Show. Et je suis trop contente parce que elle vient là pour faire des trucs de copains, en fait. Elle vient même pas jouer des chansons de son spectacle, enfin, de son album. Donc c'est un truc chouette de se dire, on peut faire découvrir des gens en vrai, et de faire passer que le site soit un truc... de se dire, on passe de la... Enfin, rencontrer les vrais gens, quoi. Ça, c'est important aussi, je pense.
Ah ouais. Non, mais merci en tout cas pour ça, parce que c'est grâce à toi. Sans toi, ce truc n'existerait pas, parce que j'aurais Moi, jamais fait, j'avais pas
j'ai
le temps.
J'ai encore des idées d'ailleurs. J'ai pensé
très
à
bien.
Un truc. On en parle après.
On en parlera. Et donc, c'est une fois par mois et on va essayer de tenir un rendez-vous qui tourne autour du troisième jeudi du mois, c'est ça, si je me trompe pas. Ou peut-être que j'ai dit de la merde, j'en sais rien.
Alors, peut-être que tu l'as. Moi, aucune idée.
D'accord.
De ça.
Je suis bah, c'est ce qu'on s'était un peu dit, en fait.
D'accord.
Genre, troisième jeudi du mois, tous les mois.
Ouais, ben, en fait, là, je sais pas trop.
Voilà. Donc, donc suivez Mad, suivez Marine sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur l'internet, suivez Marine. Allez voir Marine en spectacle.
Oui, s'il vous plaît.
Vraiment. Ton spectacle est vraiment super bien. Et c'est vrai que
c'est
moi, je l'ai vu évoluer depuis 3 ans.
Oui, tu l'as vu
et là, vraiment, ça commence vraiment à... On sent que...
Hein, on sent que ça commence à devenir pas
taf.
Mal. Hein, y a du boulot.
Ouais, ouais.
Non, mais j'ai encore plein de choses à changer et je travaille dessus encore. Et les gens me disent, ça fait 3 ans que tu joues le même spectacle. C'est pas le même spectacle.
C'est pas
le même spectacle. La plupart des choses ont changé.
Ouais.
Et voilà.
C'est juste que t'as pas changé complètement ta com.
Non,
voilà.
J'ai changé mon affiche, mais j'ai pas, parce qu'elle était moche. Mais il fallait, j'ai changé pas mal de trucs. En fait, ça évolue. Il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on remet. Ça évolue, ça change. C'est pas le même spectacle. Si vous l'avez vu il y a très longtemps, revenez, parce que c'est. Voilà.
Ça a vraiment changé. Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai revu il y a peu de temps après l'avoir vu une première fois il y a très longtemps.
Mais il est plus marrant qu'avant, par exemple.
Et pour les mademoiselles qui sont tout le temps là au One Match Show, tu vas faire en sorte de changer un peu tes...
Bah, mon but, là, c'est d'écrire un truc, notamment sur le féminisme. J'espère que ce sera prêt pour le
Oui,
minute.
Allez
On verra ce que
tu
ça va.
Tu l'as annoncé.
Je l'ai annoncé au One Match Show, je l'ai annoncé là. Mais voilà. Mais merci à mademoiselle, parce que moi, c'est quand même une belle visibilité. Vous êtes les seuls, en fait, à parler de moi. Donc, c'est chouette.
Eh ben, on va compte sur nous pour pas qu'on s'arrête là.
Pour pas qu'on s'arrête là.
Voilà.
Boum.
Merci Marine.
Bah merci d'avoir été. Si vous avez été jusqu'au bout, vraiment, je suis.
Ouais.
Bravo à vous.
Bisous.
Bisous.
À plus.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
On est avec Manon. Salut Manon.
Salut Fabrice.
Ça va bien?
Ouais, ça va.
Ça va. Manon, je t'ai déjà vu quelque part.
Ah bon?
Ouais.
C'est peut-être parce que je suis venue une semaine à la rédac.
Oui, mais non, pas parce que ça, forcément.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.